a enfin débloqué cette saison après une très, très longue période de reconstruction où ils traînaient dans le fond de la cave pendant des années. La preuve qu'ils veulent gagner, ils ont été chercher dans les dernières heures le quart arrière des Capitals, John Carlson. Montréal aura devant le filet ce soir Sam Montembeau. Vous aurez droit à de nouvelles combinaisons de trio. Slavkovski se retrouvera entre autres avec Caulfield et Suzuki sur la 1. Canadien Ducks à 21h ce soir. Je vous rappelle que c'est la date limite des transactions aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey. Ne manquez pas le programme double des remparts ce week-end au Centre Vidéotron. Demain samedi, ce sera à 16h contre les Cataractes de Shawinigan et dimanche, les Islanders de Charlottetown seront en ville dès 15h. Et dans la Ligue nord-américaine, ne manquez pas demain soir 19h au Complexe sportif Bonaire, votre national qui va recevoir la visite des Marquis de Jonquière. Go, go, go!
Pour plus de sport, ici BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Chapeau Ben, votre magasin de liquidation à Québec, Saint-Georges et Lévis. Pour de la nourriture, des vêtements et des nouveautés chaque semaine, de 20 à 60% moins cher. ChapeauBen.com.
Choix.
Choix.
98.
98.
1. Choix. Choix. Radio X. À Québec, c'est Radio X. Choix.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh.
Radio X.
Il exige que tout soit publié en intégralité. Donald Trump veut faire toute la lumière sur les dossiers gouvernementaux liés aux extraterrestres et aux objets volants non identifiés. Une demande quelques jours après la déclaration de Barack Obama, qui affirmait que les extraterrestres existent.
Il a divulgué des informations classifiées, il n'était pas censé faire ça.
Donc les extraterrestres existent ?
Je ne sais pas s'ils existent vraiment, je peux vous dire qu'il a divulgué des informations classifiées, il n'était pas censé faire ça, il a commis une grave erreur.
Mais le prédécesseur de Donald Trump n'a en réalité révélé aucune information classifiée.
Ils existent, mais je ne les ai jamais vus et ils ne sont pas détenus dans... Comment ça s'appelle déjà ?
La zone 51 ?
La zone 51. Il n'y a pas d'installation souterraine, à moins qu'il y ait une énorme conspiration et qu'ils l'aient cachée au président des États-Unis.
L'ancien président a depuis précisé ses propos. Pour lui, il y a de fortes chances que des extraterrestres existent, étant donné la taille de l'univers, mais il n'en a aucune preuve. Ces dernières années, l'administration américaine s'intéresse de plus en plus aux extraterrestres. En 2022, le Congrès a tenu ses premières auditions sur les ovnis depuis un demi-siècle, après la publication d'étranges vidéos tournées par la marine américaine. Depuis, le Pentagone et la NASA ont intensifié leurs efforts pour étudier et diffuser des informations sur ces mystérieuses observations. Les quelques cas résolus s'avèrent généralement être des drones, des avions expérimentaux ou tout simplement des phénomènes météorologiques. La majorité des rapports restent inexpliqués, mais il en va de même pour une grande partie de l'activité humaine.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans les Radio X-Files de ce vendredi soir où nous ferons une émission spéciale sur Donald Trump et les ovnis. Christian Page, bonsoir, bienvenue sur les ondes de choix 98 Radio X.
Bonsoir Nick. Oui, effectivement, on vient d'entendre un bulletin qui résumait assez bien la situation présentée à France 24, c'était le 20 février dernier. C'était au lendemain de la déclaration de Donald Trump de cette volonté de rendre public les dossiers sur les ovnis. Et en temps normal, notre émission d'aujourd'hui aurait dû porter sur... En fait, elle porte aussi pour ça, sur ça, mais elle devait porter sur les questions du public. Et depuis la déclaration de Donald Trump, j'ai été inondé de questions à gauche et à droite sur qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce qu'on dit de ça, et ça. Et je me suis dit, bon... On va regrouper l'ensemble de ces questions-là et j'ai préparé une espèce de canevas par lequel ben, j'espère pouvoir répondre à l'ensemble des questions qui m'ont été posées au cours des deux dernières semaines et qui vont essayer de mettre un peu en lumière cette histoire de déclaration de Trump et à quoi doit-on s'attendre. Je dois t'avouer que au lendemain de la... J'en ai eu de tous les genres, faut quand même le dire.
J'imagine.
Donc au lendemain de la publication, beaucoup de gens me posaient des questions. Puis il y en avait d'autres qui m'ont fait bien sourire. Là, tu sais, des gens qui m'écrivaient des gens qui n'apprécient pas nécessairement mon discours, là, tu sais, qui me disaient, bon, deux d'entre eux ont annoncé ma mort, là, dans bon, Christian, mais tu sais, ma mort dans le sens, ma mort médiatique.
Oui, je comprends.
Tu sais, tes jours achèvent, Christian Page, avec la publication de ces dossiers-là. Bye bye, tu vas débarrasser le plancher.
La vérité absolue va sortir.
La vérité arrive, là, tu sais, c'est fini de faire le fin finot. si tu savais le nombre de fois qu'on a annoncé ma mort médiatique dans ce sens-là, et puis pourtant, je suis toujours là et je peux t'assurer que ça n'arrivera pas avec les déclarations de Donald Trump.
Bon.
Mais néanmoins, bon, et puis ensuite, ben, y avait plein de questions qui ont suivi. Est-ce que, à quoi doit-on s'attendre? Est-ce que ces dossiers-là seront ouverts? Et en même temps, il y a quand même un élément intéressant, j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission, mais il y a eu quand même une bonne conséquence à cette histoire-là, dans le sens que au moment où on se parle, il y a le gouvernement de l'Espagne qui a décidé lui aussi d'ouvrir ses dossiers sur les ovnis, donc dans la foulée de ce que Donald Trump a annoncé. On comprend que dans le monde occidental, cette question-là des ovnis, bien évidemment, ça a suscité énormément d'intérêt parce que cette histoire-là de Donald Trump, on n'en a pas parlé qu'aux États-Unis, on en a parlé ici beaucoup au Québec. Moi, au lendemain de cette déclaration de Trump, j'ai fait à peu près tous les médias québécois, là, radio et télévision, pour essayer d'expliquer à quoi on devait s'en tenir. Et ensuite, du côté de l'Europe également, là, en Angleterre, en Espagne, en France, il y a des gens qui ont posé des questions à leurs élus exactement dans le même sens. Et bon, l'Espagne... La question aussi a rebondi au Mexique. Mais c'est Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, qui est la présidente du Mexique. Elle a répondu en souriant, en faisant une espèce de geste de la main. Je trouvais ça assez amusant. Elle a dit, bon, elle dit, vous savez, je crois pas que les forces militaires mexicaines s'intéressent beaucoup aux ovnis. Puis ils ont d'autres choses à faire que de chasser les hommes verts, les petits hommes verts. C'est vrai que quand on regarde l'actualité au Mexique depuis les dernières semaines avec le problème avec les cartels puis tout ça, je pense effectivement que les autorités militaires ont autre chose à faire que les ovnis. Mais bon, la question a quand même rebondi en Angleterre et rebondi en Espagne. L'Espagne a déjà annoncé qu'elle allait rendre ses dossiers publics sur les ovnis. Et en fait, elle n'a pas rien qu'annoncé qu'elle les rendrait publics. Elle les a rendus publics. En fait, ils ont été publiés il y a quelques jours. Et principalement pour une période allant de 1950 à 1990. Mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Pour ce qui est des déclarations de Donald Trump lui-même, ben bon, on l'a vu, il annonce... c'est un peu au lendemain de la déclaration. On se rappelle qu'il y avait eu Barack Obama quelques jours plus tôt. D'ailleurs, on l'a dit dans le reportage de France 24. Il y avait eu quelques jours plus tôt Barack Obama qui était à un balado. Et c'est à un moment donné, bon, on aborde la question des ovnis. En fait, c'est une espèce de réponse en rafale. Donc, on comprend, vous pouvez pas... pour jouer le jeu, Barack Obama pouvait pas prendre 5 minutes pour répondre à chaque question, là. Et puis, bon, la question, c'était... Et les ovnis? Alors, Barack Obama répond, bon, les extraterrestres existent, mais bon, ils sont pas gardés dans la zone 51. Et puis, effectivement, on a vu la toile s'enflammer autour de ça. Le lendemain, c'était Barack Obama confirme l'existence des extraterrestres, un point tel que Barack Obama a dû préciser, comme on le mentionnait dans le reportage, qu'il ne fallait pas prendre ça au premier degré. C'était dans le sens, oui, les extraterrestres existent parce que l'univers est vaste, mais lui, on n'avait jamais vu des extraterrestres. Et dans la foulée de ça, ça a soulevé un tel intérêt médiatique que, visiblement, Donald Trump a senti le besoin de rebondir là-dessus. Bon, évidemment, quand il dit que Barack Obama a révélé de l'information secrète, bon, le fait de dire que l'univers est vaste et que les extraterrestres doivent exister dans l'univers, je ne vois pas ce qu'il y a de très secret là-dedans. Là. Bon. Mais en même temps, puis je pense qu'on en avait parlé à quelques reprises de ça, il faut quand même savoir que à la base des électeurs de Donald Trump, il y a cette frange d'individus qui adhèrent du groupement MAGA et même qui ont sombré un peu dans le délire QAnon lors du premier mandat de Donald Trump, hein, une espèce de théorie du complot, là, une espèce de... d'individus qui, maintenant, on sait que c'était trois jeunes hommes qui s'amusaient sur une espèce de babillard Internet à se faire passer pour un informateur du gouvernement qui se donnait le nom de Q. Là, mon
oui. Mère.
Tout ça, c'était du grand n'importe quoi.
Ça fait beaucoup de bruit quand même.
Oui, ça fait beaucoup de bruit à l'époque, lors du premier mandat de Donald Trump. Et les gens, une espèce de frange très complotiste, a adhéré à ces déclarations-là, croyant qu'il y avait réellement quelqu'un au sein de l'administration de Donald Trump qui révélait des informations. Et c'est là qu'est née l'histoire du Pizzagate, là, par exemple, des satanistes qui mangeaient des bébés dans une pizza là, à Washington, D.C. Bon, puis toutes sortes de trucs un peu fantaisistes. Et dans cette affaire-là, donc, on le sait, il y a une base chez les électeurs de Donald Trump qui fait beaucoup dans les théories du complot. Et évidemment, quand Donald Trump dit bon, Barack Obama a révélé de l'information secrète et confidentielle, ça répond en fait à un besoin populaire et populiste. Hein. D'abord, il sait qu'une frange de son électorat déteste Barack Obama, hein, qui est un démocrate. Et ensuite de ça, en disant il a révélé de l'information secrète, ben, c'est répondre à cette base qui continue de croire qu'il existe de l'information secrète. C'est bon, donc, on répond de cette manière-là. Les gens, disons, un peu plus avisés, puis là, moi, j'ai l'impression que c'est un pouls également qu'on peut sentir à travers les grands médias. Le pouls ressenti, c'est plutôt que Donald Trump fait à peu près n'importe quoi pour essayer d'éloigner l'intérêt des médias vers l'affaire des dossiers Epstein. Parce que bon, cette histoire-là, pendant 48 heures, avec la déclaration de Barack Obama, l'affaire Epstein est passée au deuxième niveau. On parlait plus des extraterrestres que de l'affaire Epstein. J'ai l'impression que Donald Trump a vu là-dedans un moyen facile de pouvoir détourner l'intérêt des médias. Mais bon, c'est un intérêt qui est passager. Parce que bon, à un moment donné, un coup que pendant 3-4 jours, on en a beaucoup parlé, on revient au dossier Epstein. Est-ce que Donald Trump, et là, je parle en mon nom personnel, est-ce que Donald Trump a réellement envie, est-ce qu'il y a un souci de vérité de Donald Trump de révéler l'information sur les ovnis? Mm-hmm. J'ai l'impression que Donald Trump se fout complètement des ovnis.
J'imagine.
Il n'a rien à se cirer. Il s'est dit, ben voilà, une autre façon un peu de détourner momentanément l'intérêt des médias de la question de l'affaire des dossiers Epstein. Puis bon, on va se lancer là-dessus. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il a déclaré une guerre à l'Iran qu'on pourrait essayer de détourner l'attention des médias sur l'affaire Epstein. Mais disons que ça tombe bien.
Hein, je comprends.
Ça tombe à point nommé. On ne parle plus vraiment des dossiers Epstein. Mais bref, cette déclaration de Donald Trump, il a confié le mandat donc de rendre public les dossiers sur les ovnis et les extraterrestres. Évidemment, le dossier, une fois qu'on fait cette déclaration, le dossier rebondit et va tomber sur le bureau de Pete Hexen, qui est le directeur du département de la guerre, un ancien département de la défense, département de la défense, oui. Et là, il y a quelques jours, Pete Hexet a dit, ben voilà, j'ai confié le mandat de ces dossiers à Laro. Et Laro, et là, tu vois, on commence à déjà tomber dans une mécanique un peu étrange, là, tu sais. Donc, Laro, qu'est-ce que c'est que Laro? On en a souvent parlé ensemble lorsqu'il était question des ovnis. C'est ce bureau étatique mis en place en 2022 par le département de la Défense à ce moment-là pour enquêter sur les phénomènes des ovnis qu'on appelle maintenant les phénomènes UAP ou PAN, les phénomènes aériens non identifiés. Donc l'ARO, c'est un acronyme qui veut dire Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines. Et son mandat, donc, est en particulier de s'intéresser à ces questions d'ovnis. Donc, Pete Hexet dit, ben voilà, j'ai confié le mandat à Laro. Et là, on a l'impression que ça fait pas l'affaire de tout le monde. Parce que Laro, il faut quand même le dire, Laro, et là, encore une fois, je parle en mon nom personnel, mais moi, je trouve que Laro fait un excellent travail. Ce sont des gens qui ne font pas dans la soucoupe volante et les petits bonhommes verts ou rien de ça. Ce sont des gens, là, actuellement, le directeur, c'est John Koslowski, qui est le directeur de l'ARO. Il a été précédé dans le passé par le premier directeur, c'était Sean Kirkpatrick. Ensuite, il a été remplacé par Tim Phillips. Et là, maintenant, c'est Koslowski qui est le directeur de l'ARO. Ce sont des gens qui ont tous de ça, les gens qui l'entourent, ce sont des gens qui ont de solides formations dans le domaine des sciences et dans le domaine de l'aéronautique. Et au cours des dernières années, donc depuis 2022, l'ARO a réussi à solutionner un certain nombre d'histoires d'OVNI, et lorsqu'elle les a solutionnées, Ben, c'était pour dire que, voilà, même si ces rapports provenaient de pilotes aguerris, ben, ce que les rapports, l'étude et les enquêtes menées par la ROU montrent, c'est que même si t'es un pilote aguerri, tu peux te faire tromper par un ballon, tu peux te faire tromper par un drone, tu peux te faire tromper par un oiseau. C'est pas parce que t'es... En fait, les pilotes, les militaires, faut quand même se le dire, les militaires sont pareils comme toi et moi. La seule chose qu'ils ont, c'est des costumes kaki. C'est tout, tu sais. Parce que les gens, quand tu rentres dans l'armée, là, toi, tu décides demain de rentrer dans l'armée, on te donnera pas un cours en astronomie ou en astrophysique, tu comprends? On va te donner un cours sur le maniement des armes, oui. Mais t'en seras pas davantage sur l'astronomie ou l'astrophysique. Donc, que c'est pas parce que t'as un béret militaire sur la tête puis tu te lèves les yeux dans le ciel que tu connais mieux ton ciel qu'un citoyen lambda, là, tu sais. Donc, c'est pas parce que faut arrêter avec ça, tu sais, ou c'est un militaire, hein. Mais les militaires sont pas plus aguerris que toi et moi dans le domaine de l'astronomie. Et si tu fais pas partie de l'armée de l'air, t'auras même pas de connaissances en aéronautique, hein. Il faut vraiment faire partie de l'armée de l'air pour avoir un minimum de formation dans le domaine de l'aéronautique ou de connaissances dans le domaine de l'aéronautique. Mais ça nous rend pas nécessairement étanche à commettre des erreurs d'interprétation. Donc, c'est un peu ce que démontre la ROU, c'est que les dossiers, certains de ces dossiers avaient été d'ailleurs montés en épingle par des amateurs d'OVNI. Ben, ils ont trouvé finalement des explications assez rationnelles. Et, je pense notamment à un cas d'OVNI qui a été appuyé par une vidéo qui avait été tournée depuis un des appareils de l'armée, un chasseur. Pardon. Si je tousse un petit peu comme ça, je le dis tout de suite aux auditeurs, là, c'est un petit relent, un petit restant de grippe, de rhume qui est resté. Et donc, un des cas qui avait beaucoup suscité d'intérêt, c'est un cas qu'on a appelé une vidéo, qu'on appelait Go Fast, et qui avait été monté en épingle par les amateurs d'OVNI. Puis on entendait quand cette image-là était diffusée. En fait, c'est un petit clip vidéo tourné depuis un appareil, depuis le système radar d'un avion, d'un jet. Et on entendait, par exemple, le pilote en arrière-plan. Oui, il était tout excité parce que son radar avait réussi à se verrouiller sur l'objet. Et l'enquête menée par la ROU révèle que cet objet-là, finalement, n'est rien de plus qu'un ballon. C'est un ballon dans l'air. Puis on parle pas d'un ballon météo, là. Vraiment d'un ballon comme ceux qu'on retrouve dans des fêtes d'enfants, là. Un petit ballon gonflé à l'hélium qui était lâché, et il se déplace au-dessus de l'océan. Donc, on peut imaginer qu'il a été lâché depuis une plage. Il est au-dessus de l'océan. Ces ballons-là, les gens ne le savent pas, mais les ballons en aluminium. Quand tu vas dans des magasins, là, où on vend des magasins spécialisés dans les fêtes, tu peux acheter des ballons qui sont faits en espèce de papier d'aluminium, là, hein, qui est argenté, là, une espèce de millard argenté. Et ces ballons-là, là, ils peuvent atteindre une altitude de 30 000 pieds d'altitude. Hein. Toi, tu le lâches sur la plage, oui. Là, il peut monter à 30 000 pieds d'altitude, puis il peut rester en l'air pendant plusieurs jours. Donc, ce ballon-là a peut-être été lâché quelques heures ou quelques jours plus tôt. Il a atteint une certaine altitude, X ou Y, parce que, bon, le radar montre que l'objet n'est pas très, très haut. Là. Il était peut-être à quelque chose comme 2000 pieds d'altitude, mais bref, le pilote a été trompé par cet objet-là. Et l'enquête de la ROU montre que l'objet n'est rien de plus qu'un petit ballon, là, comme on en trouve dans des fêtes d'enfants. Et ça nous montre à quel point les pilotes ne sont pas à l'abri de commettre des erreurs. Mais comme la ROU, jusqu'à maintenant, a toujours tenu un discours excessivement sobre, et jusqu'à maintenant, dans ses communications, la ROU a toujours maintenu ne pas avoir trouvé, même s'il y a certains cas pour lesquels ils n'ont pas trouvé d'explication, ils reconnaissent que ces cas-là sont simplement sont restés non identifiés parce que, dans bien des cas, on n'avait pas suffisamment d'informations, mais que rien de tous ces cas ne semblait témoigner de la présence de visites extraterrestres. Et là, tu comprends que... Je veux pas être méchant, mais j'ai quand même côtoyé ce milieu-là depuis assez longtemps. Ça fait 50 ans que je suis dans ce milieu-là. Et souvent, le discours de ces gens-là, souvent ils répètent « nous voulons la vérité ». C'est pas vrai, là. Ils veulent pas la vérité, ils veulent leur vérité. Et c'est pas pareil, ça. Leur vérité, hein, si tu veux avoir la vérité ou tu veux avoir raison, là. Ces gens-là, d'abord, entendons-nous, les ovnis, ils en ont rien à cirer. Ça les intéresse pas, les objets volants non identifiés. Parce que des objets volants non identifiés, ça peut être n'importe quoi, hein. Comme le montrent les enquêtes, ça peut être un ballon, ça peut être un avion, un autre avion qu'on n'arrive pas à identifier, ça peut être un drone, ça peut être n'importe quoi. Les amateurs, on n'en a rien à cirer de ces ovnis-là. Ce qui les intéresse, c'est que derrière les ovnis, il y a peut-être une présence extraterrestre ou quelque chose d'exotique, des vaisseaux venus d'une autre dimension ou peu importe. Et c'est cet aspect-là qui les intéresse. Les ovnis, c'est une belle étiquette, mais on s'en fout un peu, là. Ce qui nous intéresse, c'est que derrière les ovnis, il y a peut-être des engins extraterrestres ou des véhicules exotiques venus d'une autre dimension. Donc ça, c'est ce qui les intéresse. Et dans bien des cas, ils sont convaincus de ça. Et parce qu'ils sont convaincus de ça, ben tu comprends que quelle que soit l'explication que tu vas apporter, peu importe l'enquête qui sera menée, ben si l'enquête ne va pas dans le sens de leur conviction, ben forcément, c'est que on nous cache des choses, l'enquête est biaisée, c'est un rouage d'un complot, donc tu vois un peu le genre. C'est toujours ça. Et là, c'est un peu ce qui arrive avec dans le cas de l'ARO. À partir du l'ARO, depuis sa mise en place en 2022, n'a pas trouvé de cas d'OVNI extraterrestre. Non seulement il n'en a pas trouvé, mais les cas qu'il a identifiés, il les a identifiés comme étant des phénomènes excessivement banals et tout à fait terre à terre. Et avec les trois dernières années qui se sont écoulées, bien, il y a un fossé qui s'est creusé entre l'ARO et le public en général et les amateurs d'OVNI convaincus de la présence des extraterrestres. Alors, tu comprends que c'est à partir du moment où Pete Hegseth a dit, ben voilà, j'ai confié le mandat de vérifier ces dossiers-là par l'ARO, ben les tenants de l'hypothèse extraterrestre, qui voient des extraterrestres partout, ben quand on dit, ah, c'est déjà, les dés sont pipés d'avance en confiant ce mandat-là à l'ARO, l'ARO est pas crédible, l'ARO c'est des méchants, l'ARO c'est des pas fins. Et c'est le cas, par exemple, il y a, au sein du gouvernement américain, il y a une espèce de comité là qui, depuis 2-3 ans, fait des auditions avec des sonneurs d'alerte qui racontent des histoires mais fantaisistes. Et parmi ces gens-là, bien, il y a des congressmen ou des congresswomen qui tiennent des propos là, tout à fait fantaisistes. Et parmi les plus allumés, pour rester poli, il y a Anna Paulina Luna, qui est une représentante républicaine de la Floride, mais qui te dit là, le nombre de bêtises que cette femme-là peut dire. Là, je veux dire, elle est embrigadée dans cet univers-là. Là. Pour elle, là, les ovnis, c'est devenu une religion. Là. Et son discours, tu peux remplacer ovni par Jésus, puis c'est pareil. Là. C'est un discours, mais complètement déjanté. Donc, elle a été la première, tu comprends bien, le département de la guerre a annoncé, puis Pete Hegseth a dit, ben voilà, j'ai confié le mandat à l'ARO. La première à faire une sortie publique, c'était Anna Paulina Luna, qui dit, ah, il faut absolument pas croire ce que l'ARO nous prépare. Donc, c'est amusant parce qu'on est en train de préparer la sortie. Hein, parce que moi, mon discours que j'ai dit il y a 2 semaines, et je le répète encore ce soir, j'ai la conviction qu'il n'y a rien qui va sortir de ces dossiers-là. Parce que, puis on va y revenir au cours de l'émission, mais je pense qu'il n'y a rien à cacher. Puis tout ce qu'on avait, tout ce qu'on savait sur les ovnis a été rendu public. Il n'y a plus rien. Là. Tu sais, bon, dans ce niveau-là, là, il n'y a plus rien. Donc, comme il n'y a rien, je pense qu'il n'y a rien qui va sortir de ces dossiers, ben les amateurs d'OVNI ne veulent pas lâcher le morceau. Tu comprends-tu? Ils peuvent pas dire, finalement, on a rendu public les dossiers, puis ils vont... Si tu crois, là, je te le dis, Nick, si tu crois qu'au lendemain de la publication de ce qui pourrait rester de ces dossiers, je vais y revenir, mais ce qui pourrait rester de ces dossiers, lorsqu'il sera publié, j'ai l'ultime conviction qu'on révélera pas d'extraterrestres, ben crois-moi, ces gens-là mettront pas les mains dans leur poche en s'en allant jouer au golf, en pensant, bon, ben, finalement, il y avait rien là-dedans. Pas du tout, là. Ils vont reprendre la même vieille rengaine, là. Tu sais, là, ces dossiers-là sont pipés, la preuve, c'est que ça a été confié à l'ARO, puis l'ARO, c'est des méchants, donc les vrais dossiers, on les a pas eus, puis on revient à la case départ. Le gouvernement nous cache des choses, même s'il dit qu'il a rendu public les dossiers, il y a encore des dossiers qui sont pas là, puis blablabla, et on est reparti. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau. Cette manœuvre-là est un coup d'épée dans l'eau, et Anna Paulina Luna et d'autres du même genre, ben, ils sont en train de préparer leur sortie. Hein. Ils nous annoncent déjà la couleur de ce que sera demain. Et demain, ce sera de dire « l'ARO a fait un mauvais travail puis il nous cache des choses ». Donc, on est un peu là et on prépare un peu cette sortie. Bon, maintenant, si on oublie cette frange-là et on regarde de manière plus, avec un certain recul, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a confié le rapport, cette demande-là à l'ARO. Ben, l'ARO, il faut quand même le dire, je l'ai mentionné, ils ont mené des enquêtes qui, à mon avis, étaient tout à fait efficaces. Ils ont apporté des conclusions à certaines histoires d'OVNI qui avaient été montées en épingle par certains sonneurs d'alerte, puis qui finalement se sont dégonflés, sans mauvais jeu de mots, comme étant des ballons. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en 2023, on a l'impression en fait de revivre, parce que quand les gens me posent la question « Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? » Ben, j'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte, parce qu'on n'a rien de nouveau. Puis il faut savoir que des histoires de publication de dossiers, c'est pas la première fois qu'on fait ça, cet exercice-là, et c'est toujours un peu la même conclusion. Et en 2023, il y avait eu une audition au Congrès où on avait reçu un sonneur d'alerte, un certain David Grush. Et David Grush avait raconté une histoire, bon, avec un discours assez fantastique, en disant c'est un ancien militaire, encore une fois, c'est un billet de d'autorité, hein. c'est un militaire. Ah ben parce que c'est un militaire, bon. Et puis, et ce David Grush dit, ben voilà, moi je connais quelqu'un qui dit qu'il a déjà travaillé un programme où on a récupéré des ovnis, etc. Donc il tient un discours un peu fantastique à ce niveau-là. Et comme il dépose devant le Congrès, donc sous serment devant le Congrès, le Congrès a demandé à Larrow de dire, ben là, on a ce militaire qui vient dire qu'il y aurait, non seulement l'armée aurait récupéré des ovnis, elle aurait récupéré des cadavres de créatures non humaines, et il y a des programmes secrets au sein du gouvernement qui seraient impliqués dans de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire on prend ces engins de facture exotique, on les déconstruit, pour voir si on ne peut pas tirer quelque chose de cette technologie qu'on pourrait appliquer à de la technologie domestique, par exemple, sur des avions. Et même si durant sa présentation au Congrès, il n'a pas donné de nom, ben, il parlait des géants de l'aviation. Et les géants de l'aviation, ben, ils ne sont pas 100 000 à travailler avec les militaires aux États-Unis. Tu sais, t'as Lockheed, Skunkwerk, qui ont développé des appareils comme le F-117 Stealth Fighter et ça, et t'as Grumman, la compagnie Grumman, qui travaille également. Donc, quand il parle de géants de l'aéronautique, ben, c'est forcément l'un de... C'est ou bien Grumman Martin, c'est ou bien Lockheed, ou bien c'est Boeing. Il n'y en a pas 100 000. Donc, on a demandé à Larrow de vérifier ça. Et Larrow a publié un rapport en 2023, qui était un rapport sur l'investigation qu'ils avaient menée. Et leur rapport, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression de vivre le jour de la marmotte. Le rapport était très précis. C'était de dire, ben, on a vérifié ces allégations. Non seulement on n'a pas trouvé aucun programme du gouvernement américain qui visait à récupérer des engins extraterrestres. D'ailleurs, il y a une petite aparté à ce sujet-là. Il dit, il y a eu des programmes dans les années 50 et 60 qui visaient à récupérer des engins, mais des engins russes. Donc, des aliens. Tu comprends, hein? Mm-hmm. Si on prend l'expression américaine, c'est alien, c'est étranger.
Ben oui,
mais ces programmes-là visaient à récupérer des engins aliens. Mais quand on parle d'engins aliens, on parlait de chasseurs soviétiques ou un peu plus tardivement, quand arrivent les programmes spatiaux, les Soviétiques ont lancé, bon, des Sputnik, des Soyouz, des Vostok, donc des engins spatiaux qui ont pu retomber sur Terre, hein, parce que la mise en orbite au début, ça fonctionnait pas toujours. Puis même encore aujourd'hui, là, il y a quelques jours, il y a eu des tentatives. Je crois que c'est le Japon qui ont tenté de mettre en orbite une fusée, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a énormément de risques, puis on comprend qu'au début de l'ère spatiale, la satellisation de ces engins-là fonctionnait pas toujours. Fait qu'ils retombaient. Donc, il y avait un programme aux États-Unis qui s'appelait le programme Moondust. Et ces gens-là étaient chargés, donc, de récupérer des engins qui auraient pu, des engins spatiaux soviétiques qui auraient pu tomber pour les récupérer puis de voir à quel niveau on en était à la technologie spatiale soviétique. Et également, ces mêmes programmes visaient à récupérer aussi des avions de chasse, des MiG notamment de l'armée soviétique qui pouvaient tomber en pays étranger pour les récupérer et voir comment ils fonctionnaient. Puis même eu dans les années 70, on a même récupéré un sous-marin soviétique en modifiant un bateau, un pétrolier de Howard Hughes avec des grappins pour aller chercher le sous-marin qui était au fond de l'eau. C'est donc, on cherchait à récupérer de la alien technology. Hein, donc, ce que le rapport de Larrow dit, il est possible que certains aient parlé de ces programmes-là. Tu sais, j'ai travaillé dans les années 60 un programme pour récupérer de la alien technology et que de bouche à oreille, ben, la alien technology est devenue de la technologie extraterrestre. donc une déformation de la réalité, mais la roue est claire. Un programme visant à récupérer des engins extraterrestres, ils n'ont pas trouvé de traces. Ils n'ont pas trouvé trace non plus de ce engin extraterrestre gardé dans des hangars. Et ils n'ont pas trouvé trace non plus de programme de rétro-ingénierie auprès des géants de l'aviation pour déconstruire ces appareils-là. Donc, ce rapport-là, il est en 2023. Et le rapport de la roue, donc, conclut en disant, ben non, on n'a pas trouvé trace de ces programmes-là, mais on n'a pas trouvé non plus la moindre trace qui existe quelque part, une technologie extraterrestre qui soit tombée aux mains des militaires. Et tu comprends que pour les tenants de cette réalité exotique et du complot, ben c'est sûr que la roue a menti, la roue cache des choses. Et c'est pourquoi quand aujourd'hui on confie à la roue ce mandat, bon, les gens gardent en mémoire, ouais, mais ils ont déjà fait l'exercice, puis ça n'avait rien donné. Pourquoi ils arriveraient à d'autres conclusions aujourd'hui? Ben, s'ils n'arrivent pas à d'autres conclusions aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres conclusions à tirer non plus. Il ne faut pas nécessairement avoir un complot. Bref, moi, je pense que la roue fait un très bon travail dans ce sens-là. Puis je pense que c'est les personnes les mieux habilitées à. S'il y a encore des dossiers à fouiller à travers ça. Mais on voit qu'en diabolisant la roue, ben ceux qui croient à la réalité des vaisseaux extraterrestres, etc., préparent déjà leur sortie. Et sur ça, ben, on va faire une pause. Puis après ça, ben, je te parlerai de ce qui est déjà accessible, en fait. Qu'est-ce à quoi on peut s'attendre?
Parfait. Bougez pas, vous êtes dans les Radio X-Files sur les ondes de choix. 98h Radio X. On revient après cette courte pause.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X, le show du matin.
Weekend.
C'est aphrodisiaque pour moi.
Avec Carbo.
Ça n'a pas de bon sens.
Samedi et dimanche. 6 heures.
Radio X.
Présenté par Sensation Plus, qui vous donne jusqu'à dimanche 30% de rabais en inscrivant le code promo Radio X sur sensationplus.com. Code promo Radio X.
Chez Maxi, la méga-vente offre tellement de méga-rabais qu'il faut aller méga-vite pour passer à travers. Le dindon flamingo, cavalier surgelé à 1,44 la livre, 3,17 le kilo. Le beurre lactancia à 4,99. Les framboises à 1,99. Ah, plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Chaque fois que je vois mon fils, il me demande ma carte de crédit. Je pense que c'est pour faire mes commissions, mais je suis pas certaine. C'est le seul moment où je peux le voir. Et c'est mon fils. Jamais il me volerait de l'argent. Il en prend juste pour m'aider. Enfin, je crois.
Si vous avez un doute, il y a quelqu'un pour vous écouter. Contactez la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. Un message du gouvernement du Québec.
Plongez dans la jungle avec Papillons en fête chez Jardin Amel, une serre tropicale immersive. Des milliers de papillons en liberté des quatre coins du monde. L'activité la plus abordable de la relâche à vivre en famille. Papillons en fête chez Jardin Amel, ouvert tous les jours de 8h à 17h30.
Les conseils des cons,
Chers décorateurs, bonjour. Aujourd'hui, Sandra nous demande...
Hey, un divan rouge avec des coussins bleus et jaunes, ça a-tu l'air fou?
Mais non, Sandra. Au pire... Tu dis que t'es avant-gardiste ou que t'es daltonienne. Ce qui aurait l'air fou, c'est d'oublier que les deux taxes sont payées chez Meublardé.
Ah, pas fou. Merci.
Jusqu'à dimanche, on paie les deux taxes sur tous les meubles et matelas à prix régulier. Meubles RD, bien se meubler, moins dépenser.
Jusqu'au 31 mars, Dixili Charlebourg vous offre ses boîtes d'ailes de poulet barbecue en super promo. 6 ailes à 5,95 $, 10 ailes à 9,45 $ et 20 ailes à 17,95 $. En salle à manger et pour emporter.
Le meilleur poulet frit, c'est Dixili.
Boulevard Louis XIV.
La fin d'une ère commence. Une soirée très spéciale avec Journey. La tournée Final Frontier 2026 s'arrête au Centre Vidéotron le 12 mars. Place au spectacle pour une ultime fois. Billets en vente maintenant sur journeymusic.com. Journey au Centre Vidéotron. Une présentation d'AEG.
Chez Netris, nous sommes les experts de la paye au Québec. Depuis plus de 45 ans, nous accompagnons fièrement les entreprises d'ici. Propulsés par CGI, nous offrons une infrastructure technologique robuste et sécuritaire. Confiez la gestion de votre paye à nos spécialistes afin de maximiser votre efficacité et de libérer votre temps pour l'essentiel. Essayez Netris dès maintenant. Le premier mois est gratuit. Certaines conditions s'appliquent. Rendez-vous sur netris.com. Netris. Bien bien plus qu'un logiciel de paye.
T'es dans la construction? Prends action dès maintenant pour obtenir ta licence RMQ. Depuis plus de 15 ans, le groupe GSC accompagne les entrepreneurs en construction partout au Québec. Formation intensive et encadrée pour t'aider à réussir tes examens RMQ avec confiance et efficacité. En classe, en ligne ou hybride, on s'adapte à ton horaire et à ta réalité d'entrepreneur. Avec nos horaires flexibles, concilie études, travail et vie de famille sans stress. Visitez groupeGSC.com. Groupe GSC, formé pour bâtir.
Tout le monde sait qu'à Québec, la marque automobile la plus vendue, c'est Kia. Il y en a partout. Ça marche tellement bien que Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair ouvrent des postes permanents. Et si tu n'es pas déjà dans le domaine, on offre la formation payée à l'Académie Kia. Change ta vie. Mécanicien en tout genre, incluant la spécialité électrique. Préposé à la pose de pneus. Commis junior et senior aux pièces. Commis d'entrepôt et préposé à l'esthétique. Inscris-toi sur AcadémieKia.ca ou passe chez Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair.
J'ai enfin un travail dans mon domaine avec de bons avantages. Mon emploi, je l'ai trouvé au Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse.
Trouvez-vous aussi l'emploi dont vous rêvez au Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse le 13 et 14 mars au Centre des congrès de Lévis. Un emploi dans votre domaine, de meilleures conditions, un horaire flexible. Rencontrez des employeurs de milieux diversifiés qui n'attendent qu'à découvrir tout votre potentiel. Visitez selb.ca. Le salon est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X Files en ce vendredi soir. Christian Page, on parlait là des documents qui devaient supposément annoncer la vérité sur les ovnis, les extraterrestres de Donald Trump avant la pause. Et on poursuit en fait sur cette discussion fort intéressante.
Donc, comme je l'ai mentionné juste avant la pause, le mandat a été confié à l'ARRO, ARRO qui est l'organisme étatique aux États-Unis qui enquête sur les ovnis. Jusqu'à maintenant, là, si on oublie un peu les théories du complot, là, ben, jusqu'à maintenant, il n'y a pas grand-chose qu'on peut reprocher à l'ARRO. Mm-hmm. C'est bon travail. C'est pas parfait. On voudrait que ce soit parfait, mais ça ne l'est pas parfait. Mais sans tomber dans les détails des manquements, un peu, des choses qu'on aurait voulu qu'ils fassent, qu'ils n'ont pas fait, mais néanmoins, ils font relativement un bon travail, et je pense que c'est bien d'avoir confié le mandat à l'ARRO. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur ces documents-là? Pourquoi on a l'impression que c'est toujours un peu de revenir en arrière? Il faut quand même savoir, Nick, qu'au moment où on se parle, en 2026, en mars 2026, il y a quelque chose uniquement aux États-Unis, là, je ne parle pas ailleurs dans le monde, uniquement aux États-Unis, il y a entre 3 et 5 millions de documents sur les ovnis qui ont été publiés. Et ça, ça inclut donc l'armée américaine s'est intéressée aux ovnis déjà là, à partir de 1947. Elle a mis en place un premier programme d'enquête sur les ovnis qui s'est appelé le projet SIGN, qui a été effectif là, de jusqu'en 1949, grosso modo, remplacé par un projet qui est devenu le projet Grudge, 1949 à 1952, grosso modo, en fait, 1951. Petite période de pause, projet Blue Book, 1952-1969. En fait, 1969 pour la fin des travaux, conclusion publiée en 1970. Donc, ça a été les enquêtes menées là, par le gouvernement américain sur la question des ovnis. Donc, une investigation qui a duré de manière à peu près permanente pendant, grosso modo, 22 ans. Et ensuite, à travers ça, ben, il y a des agences de renseignement qui, de manière un peu conjointe, ont été impliquées dans le dossier des ovnis. On pense notamment à la CIA ou à la FBI. Et là, ça peut paraître un peu surprenant. Pourquoi la CIA? La FBI, on peut toujours comprendre parce que c'est de l'information à l'intérieur du pays. Mais pourquoi la CIA? Ben, pourquoi la CIA? Parce que dans les années 50 et 60, avant l'ère spatiale, avant qu'on puisse envoyer des satellites dans l'espace, le meilleur moyen de pouvoir espionner l'ennemi soviétique, parce que c'était ça la grande préoccupation des Américains, c'était pas le petit bonhomme vert, là, c'était les Soviétiques. Donc la meilleure façon d'espionner les Soviétiques, c'était d'utiliser des mécanismes de surveillance. Et ces mécanismes de surveillance sont passés des années 40 où on utilisait des ballons, dont l'un de ces fameux ballons est devenu, a été associé à l'affaire de Roswell, là, la récupération d'un ovni dans le désert, qui était probablement, très certainement, devrais-je souligner, un ballon d'un projet top secret qui s'appelait le projet Mogul. Et ensuite, donc, des ballons au début, et ensuite remplacer, là, dès les années 50, ces ballons, parce que ça n'a pas été très efficace, là. Les ballons, on n'arrivait pas si bien à les contrôler. remplacé dans les années 50 et 60 par des avions espions. Et on pense, par exemple, le U-2, le SR-71 Blackbird, donc des avions qui ont eu une longue carrière comme avions espions et qui ont permis là, de récolter énormément d'informations sur l'ancienne Union soviétique. Et ces programmes étaient faits de manière conjointe. L'utilisation de ces avions espions était faite de manière conjointe entre la CIA et l'armée de l'air américaine. Et là, tu me dis, c'est quoi le lien avec les ovnis? Mm-hmm. On utilisait la croyance populaire des soucoupes volantes pour dissimuler les vols d'essai de ces avions. Donc, quand les avions étaient observés au-dessus des États-Unis durant des vols d'essai, puis ça arrivait qu'on les observe. Et là, on peut comprendre quelqu'un, et surtout que ces deux appareils-là ont été développés dans la zone, la fameuse zone 51, là, une base militaire ultra-secrète dans le désert du Nevada. Bien, il est possible que des gens qui roulaient sur des routes, des autoroutes dans le secteur, en levant les yeux au ciel, voient dans l'air un objet lumineux qui se déplace très, très vite et très, très, très haut dans le ciel. Et plutôt que de reconnaître quand ces gens-là appelaient pour dire « j'ai vu quelque chose de bizarre dans le ciel », bien, plutôt que les autorités reconnaissent qu'ils avaient assisté à un vol d'un avion espion, bien, on laissait sous-entendre qu'ils avaient peut-être observé une soucoupe volante, etc. Puis on les discréditait du même coup pour éviter que la rumeur se répande trop rapidement. Donc, on a utilisé la croyance populaire dans les soucoupes volantes pour dissimuler l'essai d'avions espions comme le SR-71 Blackbird ou le U-2. C'est pourquoi la CIA a énormément d'informations sur les ovnis, parce que ces deux dossiers, en fait, se télescopaient l'un et l'autre, là, avion espion et OVNI, et ça faisait partie d'un tout. Donc, et bien sûr, il y avait, au niveau intérieur, il y avait le FBI qui enquêtait. Donc, ces organismes, agences de renseignement, plus l'enquête menée par l'armée américaine, tous ces dossiers-là, ils sont accessibles. Hein. Ils ont été rendus publics, ils sont aux archives nationales, ils représentent entre 3 et 5 millions de documents. Et la grande conclusion que ces documents-là nous disent, c'est à travers tous ces millions de documents, c'est de dire, il n'y a pas d'extraterrestres. Toutes ces histoires-là ont été... Les cas non expliqués, c'est des cas insuffisamment documentés. Bien sûr, il y a un pourcentage de cas qui paraissent bien documentés pour lesquels on n'a pas d'explication, mais rien qui permet de conclure qu'il y a une technologie extraterrestre. Et c'est exactement la même chose avec les documents du FBI et de la CIA. Et les gens pourraient dire, ouais, mais c'est les Américains, puis il y a la culture du secret. C'est vrai. Mais en même temps, il faut quand même penser, si on essaie d'avoir une vision plus large, il faut quand même se dire que les autorités américaines n'ont pas été les seules à s'intéresser, là, dans les grands pays occidentaux, à s'intéresser à la question des ovnis. On pense, par exemple, à l'Angleterre, mm-hmm. qui s'intéressait à cette question-là. Je l'ai mentionné en début d'émission que l'Espagne venait de rendre public ses dossiers de 1950 à 1990. Et moi, pour avoir enquêté sur une affaire en Espagne, une fraude associée aux ovnis, qu'on a appelée l'affaire Humo, j'y étais dans les années 90, je peux t'assurer que les dossiers qui viennent d'être rendus publics sont des dossiers notamment de la Garde nationale, de l'aviation civile espagnole et également de l'armée espagnole. Et dans les années 90, c'était très difficile d'avoir de l'information là-dessus. Hein. Ils n'ont pas une loi d'accès à l'information comme on retrouve au Canada ou aux États-Unis.
C'est pas pareil.
Fait que les dossiers étaient... dès que l'armée était impliquée, ça tombait automatiquement confidentiel. Oui. Et moi, quand j'enquêtais sur l'affaire Humo, j'ai été reçu par les services de police de Madrid qui travaillaient conjointement avec la Garde nationale. Puis crois-moi que j'ai dû jouer des coudes en tabarnouche pour réussir à avoir des dossiers là, relatifs à cette affaire-là. Et c'était une affaire très pointue. Et quand on m'a mis le dossier devant les yeux, tu sais, il y avait un garde au côté de moi, je feuilletais les documents, puis ce que je lisais, j'avais pas le droit de le photographier, je pouvais le lire. Non, évidemment, j'avais un interprète parce que je parle pas espagnol. Et là, l'interprète me lisait ça, je pouvais prendre des notes, mais c'était tout ce que je pouvais faire, puis il y avait un garde au côté de moi. C'était très compliqué. Okay. Mais bref, tout ça pour dire que l'Espagne a rendu le dossier, c'est public, 1950-1990. L'Angleterre a fait de même. C'est des milliers de pages de documents qu'on peut consulter aux archives nationales en Angleterre. La France a, depuis le milieu des années 70, un organisme étatique qui s'appelle le GEPAN, dont tous les dossiers sont accessibles sur leur site Internet. Le Canada, c'est exactement la même chose. Le Canada, quoi qu'il y ait eu un intérêt assez mitigé au Canada pour la question des ovnis, on se fiait à notre voisin américain pour la question, mais quand même, dans les années 50, Le gouvernement américain a tenu, le gouvernement canadien, pardon, a tenu deux enquêtes sur les ovnis. Un premier projet qui s'est appelé le projet Aimant, projet Magnet, et ensuite remplacé par le projet Second Story, projet de deuxième étage, le story dans le sens étage, projet de deuxième étage. Et ensuite de ça, ben, il y a eu un intérêt. En fait, on a colligé des observations d'ovnis qui étaient signalées aux autorités, soit militaires ou les autorités civiles comme la GRC. Donc, ces dossiers-là sont accessibles. Il suffit de se rendre aux archives nationales Ottawa, et on va avoir accès à l'ensemble de tous ces dossiers-là. Et tous ces dossiers-là, si on les ajoute aux dossiers qui sont déjà publiés aux États-Unis, bien, c'est des centaines de milliers de documents, sinon des millions de documents. Et quelle est la conclusion de tous ces documents-là? C'est, il n'y a pas de preuve là-dedans qu'il y a des extraterrestres. Tu sais, à un moment donné, tu sais, combien de fois faudra-t-il le dire? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, mais... moi, je veux bien. Là, on est rendu à 6, 10 millions de documents. C'est un peu comme les... Ça me fait plutôt penser un peu à l'histoire des gens qui croient à la théorie du complot pour l'assassinat de JFK. Tu sais, au début, c'était vraisemblable. Tu sais, on disait, les dossiers sont pas accessibles. Là, peu à peu, les dossiers ont été rendus publics. Et aujourd'hui, ben, il y a à peu près plus rien de confidentiel sur l'affaire Kennedy. Tous les dossiers, là, gros, 99,999% des dossiers qui étaient liés à l'affaire Kennedy ont été rendus publics. Et il n'y a pas aucun élément là-dedans qui supporte la théorie du complot. Donc, tu peux toujours fuir en avant puis dire, ouais, mais le document, il y a un document qui le prouve qui n'a pas été rendu public. Mais là, à un moment donné, ça devient presque ridicule, cette fuite en avant, tu sais. En fait, c'est une espèce de résistance, un refus d'accepter la vérité. Et malheureusement, ben dans le cas des ovnis, je pense que c'est un peu la même chose. Et là, faut vraiment avoir une espèce de résistance à ne pas accepter cette vérité qui dit que partout à travers le monde, puis là, je t'ai mentionné l'Angleterre, la France, l'Espagne, le Canada, mais il y a d'autres pays, là, je pense notamment à l'Australie, il n'y a rien, là. Il n'y a aucun document qui est jamais sorti qui vient témoigner, confirmer qu'on est en présence. Il y a des cas inexpliqués. Mais aucun de ces cas-là ne supporte qu'il s'agit de visiteurs extraterrestres. Maintenant, cela étant dit, à quoi doit-on vraiment s'attendre? Il y a plusieurs éléments qu'il faut quand même essayer de retenir là-dedans. Bon, d'abord, il faut quand même se dire, imaginons un instant, là. Jouons le jeu, là. Imaginons un instant que le gouvernement américain ait réellement mis la main sur un OVNI ou des extraterrestres. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a différents niveaux de classification, si tu me permets l'expression, de ces fameux dossiers. Et l'une de ces classifications, donc, t'as confidentiel, secret, top secret, bon. Et il y a une catégorie de documents qui sont les documents qui sont reliés directement à la sécurité nationale. Et les documents de la sécurité qui sont classés sécurité nationale, ces dossiers-là ne peuvent pas être déclassifiés, tout simplement. C'est-à-dire que demain matin, Donald Trump pourrait pas arriver puis dire « Je vais rendre public tous les dossiers sur la bombe atomique. » Ça arrivera pas. Ces dossiers-là deviennent soudainement, là, quand ils sont classés avec cette étiquette « Sécurité nationale », il y a à peu près rien qui permet de les déclassifier. Alors, même si le président le souhaiterait, il faudrait là, un travail beaucoup plus complexe au sein du Congrès. Là, c'est à peu près inimaginable. Donc, si, je dis bien avec un grand « si »,
seulement
si
ça.
Les Américains ouais. ont réellement mis la main sur un engin extraterrestre et des cadavres d'extraterrestres, on peut raisonnablement supposer que ce dossier-là a été immédiatement classé comme étant sécurité nationale. Et s'il a été classé sous l'étiquette sécurité nationale, ben même si Donald Trump fait des pieds ou des mains, s'il n'y a pas comme une espèce d'aval de tout le Congrès, de tous les mécanismes en place, ces dossiers-là ne pourront jamais être rendus publics. Donc, quelque part, ça peut faire le jeu des tenants de la théorie du complot. Hein? Je viens de leur donner de l'eau au moulin. Hein? Ils pourront dire, ah, Christian Page nous a donné une porte de sortie. Parce qu'effectivement, un dossier classé sécurité nationale, il est à peu près ouais. ad vitam aeternam scellé et il n'est pas accessible au public. Maintenant, tous les autres dossiers, bien évidemment, avec la volonté du gouvernement, on va voir ce qu'ils vont nous rendre public. Mais jusqu'à maintenant, il ne doit plus rester beaucoup de documents qui touche directement à la question des ovnis ou des extraterrestres qui n'ont pas été rendus publics. Je pense que les quelques dossiers, si des dossiers sont rendus publics, les quelques dossiers qui restent à sortir, ce sont des dossiers qui concernent, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, des programmes qui étaient menés en sourdine par les autorités, notamment des programmes d'espionnage. Et ces programmes d'espionnage-là, ben, quelque part, on a utilisé, comme dans le cas de Roswell, parce que dans l'affaire de Roswell, c'est assez amusant, hein? Je vais pas revenir trop sur l'affaire, mais on trouve des débris. Et le projet était tellement secret, le projet Mogul, que les gens qui travaillaient au projet savaient pas à quoi il servait. Donc, on avait des gens qui assemblaient des cibles radar, mais ils savaient pas pourquoi ils assemblaient les cibles radar. Il y avait les gens qui travaillaient sur les nacelles, ils ne savaient pas à quoi servaient les nacelles. Il y avait les ballons eux-mêmes, l'assemblage du train de ballon, mais les gens ne savaient pas à quoi ils servaient le train de ballon. Bref, personne ne savait à quoi. Il y avait quelques individus qui savaient, peut-être une poignée d'individus qui savaient quelle était la destination du projet, mais tous les gens qui travaillaient sur l'ensemble de la mécanique du projet ignoraient à quoi ils servaient. Donc, il n'y avait que la base, là où le ballon était lancé, c'était la base d'Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, et l'objet, éventuellement, va tomber dans le désert de Roswell et amené à la base de Roswell. Et les militaires, bien évidemment, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils vont dire, bon, on ne sait pas ce que c'est étrange. Et là, bien, la machine se met en place. Il faudra attendre les années 90 pour qu'une demande du Congrès amène les militaires à se repencher sur cette affaire-là. Et on va déterrer des milliers de documents à propos de l'affaire du ballon Mogul. Je pense que des projets comme celui-là, comme le projet Mogul, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de projets qu'on peut imaginer dans les années 50 et 60 qui visaient soit des technologies un peu étranges, hein, ou encore une fois, quand je parle de technologies étranges, je devrais plutôt dire des projets étranges, un peu comme est-ce qu'on peut créer une espèce d'hystérie collective, est-ce qu'on peut capitaliser sur une croyance populaire pour créer une espèce de panique. Hein, bon, je pense qu'il y a plein de... c'est pas seulement des armes matérielles, mais je pense qu'on a aussi beaucoup travaillé sur des armes psychologiques, hein, les services de renseignement, mm-hmm. tout ça. Et je pense qu'il y a probablement encore beaucoup de... Je pense que le projet Mogul est la pointe de l'iceberg. Je pense qu'il doit exister dans les archives du gouvernement plein de projets, soit des projets, disons, d'ordre mécanique, hein, comme des avions espions, ou encore des projets comme des guerres psychologiques, qui nous rappellent un peu la fameuse émission d'Orson Welles en 1938, là, La guerre des mondes, où un certain nombre de gens avaient un peu paniqué en écoutant ça à la radio, puis ils pensaient vraiment qu'on était envahis par des martiens. Donc, on avait quand même un sentiment de dire on peut déclencher une espèce d'hystérie collective en faisant croire à l'imminence d'une invasion extraterrestre ou une invasion des martiens. Et je pense que ça a dû être exploité quelque part par les services de renseignement. Donc, je pense que ces dossiers-là, ils existent. Les dossiers qui pourraient être rendu public auquel on n'a pas eu accès jusqu'à maintenant, je pense que c'est plutôt des dossiers dans ce sens-là qui seront éventuellement rendus publics, où on va découvrir qu'on a mené en sourdine soit des guerres psychologiques ou qu'on a développé des mécanismes qu'on a essayé de faire passer pour des soucoupes volantes parce que c'était la culture populaire oui. qui le demandait. Mais je pense pas qu'on va sortir de ça des extraterrestres ou des soucoupes volantes venues d'une autre planète.
Mais souvent l'image des ovnis, soucoupes volantes ou même des humanoïdes, là, ça vient des films de science-fiction généralement.
Tout à fait. Et on sait d'ailleurs que dans les années 50, le gouvernement américain avait donné un contrat à une compagnie qui est installée à Toronto, qui s'appelait la compagnie Avro, pour développer d'abord un engin qui devait être extraordinaire, là, qui devait être une soucoupe volante. Puis quand on a vu que ça marchait pas, on a essayé de transformer ce projet de soucoupe volante en une Jeep volante, qu'on a appelé le projet Avrocar. Puis ça n'a pas fonctionné non plus. Mais bon, l'Avrocar, c'est bel et bien une soucoupe volante. Hein. C'est une soucoupe avec une turbine au centre. C'est vraiment une soucoupe volante. Donc, je pense que des projets comme ça, il y en a eu plusieurs. Puis je pense que ce qu'on va déclassifier, ce sont des projets comme ça. Et la grande question que je pense, puis là, je sais que l'émission est terminée, mais dans la dernière minute, il y a une réflexion à faire. C'est de se dire, si les Américains ont, depuis les années 40, 50 ou 60, ils ont mis la main sur des engins extraterrestres et qui font de la rétro-ingénierie, puis qui développent toutes sortes... Parce qu'écoutez les sonneurs d'alerte, hein, les Américains, dans le laboratoire, ont créé des trous de verre, ont créé des portes vers des portails vers d'autres dimensions, ont développé dans la zone 51 des super machines volantes extraterrestres qui peuvent devenir invisibles. C'est incroyable. On est vraiment là, dans l'univers de la science-fiction. Mais où elle est, cette technologie? Est-ce qu'on a vu cette technologie-là apparaître? Tu sais, les Américains sont toujours les premiers à faire les fanfarons pour montrer leur arsenal, montrer le nouveau jet, les nouveaux avions. Mais quand on regarde ces appareils-là, c'est jamais de la technologie exotique. On est capable de remonter à d'où vient cette technologie-là, à quel moment on a développé cette technologie furtive, etc. Puis quand on voit les F-35 qui sont utilisés par l'armée américaine, elles sont pas tellement différentes des F-16 ou des F-18 de l'armée canadienne ou de l'armée française, ou les Mirages de l'armée française. Tu comprends? C'est des avions un peu plus sophistiqués, mais aucun d'entre eux a la capacité de se rendre invisible ou de changer de forme, ou etc. Tu comprends? C'est de la technologie terrestre. Peut-être la tu sais, les Américains ont mis beaucoup d'argent dans le développement technologique, donc c'est normal qu'ils ont de la technologie un peu plus sophistiquée. Mais une technologie sophistiquée ne fait pas de ça une technologie extraterrestre. Et quand on regarde les problèmes que la NASA a à essayer de lancer la mission Artemis avec des fuites de carburant, elle est où cette sapristi technologie extraterrestre qu'on nous parle? On aurait dû, au cours des 50 dernières années, voir ça apparaître. On aurait dû, à un moment donné, dire « Ouais, gars, on a créé une super machine. » Non, pas du tout. Donc, moi, la réflexion, c'est le jour où je verrai un super avion américain capable de devenir invisible ou transparent ou passer à travers la matière, là, à ce moment-là, je dirais « Wow! » Oui. Je sais pas où les Américains ont été allés puiser cette technologie-là, mais c'est vraiment fantastique. Mais jusqu'à maintenant, ce que l'on voit, là, c'est toujours de la technologie 100% terrestre qui est facile de comprendre comment elle a été développée et à partir de quoi elle a été développée sans avoir jamais besoin de faire appel à une technologie exotique venue d'une autre planète. Donc, c'est un peu ma grande réflexion.
Je veux pas repartir sur un autre sujet parce qu'on n'a pas le temps, mais à la blague, ce sera peut-être l'informatique quantique qui va nous amener le multivers, Christian.
Ouais, peut-être.
À suivre.
Tout à fait. À suivre. Donc, j'espère qu'avec cette émission, j'ai répondu un peu à toutes les questions qui ont été posées sur à quoi s'attendre avec ces révélations de Donald, cette volonté de Donald Trump de rendre public les dossiers sur les
autres. Espérons-le, Christian Page. On va se retrouver de toute façon vendredi prochain pour une autre édition des Radio X-Files.
Oui, absolument.
Alors, d'ici là, je te souhaite un bon week-end et puis on se reparle vendredi prochain.
Absolument. Bon week-end. Ciao.
Merci beaucoup, Christian Page. C'était les Radio X-Files. Et je vous souhaite également un bon week-end. Ce qui suivra au retour de la pause, c'est la Sexploratrice avec Mélanie Trudel qui s'installe.
This is not a test.
Radio X-Files.
Avec Christian Page.
Radio X. Le carbone. Show.
Avec
Allô?
Carbo.
Oui, c'est le Carbo.
Lundi au jeudi, 18h.
Radio X.
Le Carbo Show présenté par Export Auto.
Pourquoi payer plus ailleurs? Chez nous, c'est moins cher. On est là pour vous. 2703 Président Kennedy ou exportauto.com.
Capsule.
Radio X.
Air Products Canada Saint-Augustin recrute des chauffeurs de camions citernes classe 1. Faites carrière avec le leader mondial des gaz industriels. Gagnez jusqu'à 120 000 $ par année, plus 5 000 $ de primes d'embauche et des avantages dès le premier jour. AirProducts.ca, rubrique emploi. Le spécialiste de la toiture, c'est Nanook. Pour un temps limité, obtenez un rabais éclair allant de 500 à 1 500 $ en demandant une soumission pour toit plat ou revêtement extérieur pendant la promotion Réno-Rabais chez Nanook. Plus de détails au nanuuq.ca. Il y a du neuf chez Tapis Extra. On restaure vos planchers de bois franc sans poussière, sans odeur. Les résultats sont extra impressionnants, c'est promis. Contactez-nous pour une évaluation gratuite. Tapis Extra, passe-nous voir au 255 Avenue Saint-Sacrement. Vous êtes à la recherche de votre emploi de rêve. Les 13 et 14 mars, rendez-vous au Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse au Centre des congrès de Lévis. Rencontrez des employeurs de milieux diversifiés qui n'attendent qu'à découvrir tout votre potentiel. Visitez selb.ca.
Salut, ici Marie-Lou Wolfe. Du 3 au 8 mars, on se donne rendez-vous au kiosque Chevrolet de l'International de l'Auto de Québec. Découvrez pourquoi Chevrolet est numéro 1 en vente de véhicules électriques au Québec en faisant l'essai routier de différents modèles Chevrolet sur place. Moi, je serai là le vendredi 6 mars de 18h à 19h30. À bientôt!
Salut, c'est Marc Dupré. Je vous attends au kiosque GMC le samedi 7 mars de 15h30 à 17h lors de l'International de l'Auto de Québec. Venez faire un tour pour découvrir le terrain ainsi que nos camions. Tout ça se passe du 3 au 8 mars au centre de foire
puis j'ai bien hâte de voir.
E-Box aime vraiment ça, l'arrivée du printemps. Fait que pour un temps limité, il t'offre le forfait Internet 100% fibre 1 gigabit par seconde au prix du 500 mégabits par seconde. Juste 50 $ par mois. Comme ça, tu doubles ta vitesse. Mais pas ta facture. Puis ça, on va se le dire, ça fait du bien. Ah, oh, t'entends ça? Il y a pas juste la neige qui commence à fondre. Le prix de notre forfait aussi. 1 gigabit par seconde au prix du 500 mégabits par seconde. Juste 50 $ par mois. Abonne-toi en ligne au ebox.ca.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primer. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Vu chez Super C, une photographe qui flash sur la viande puis les fruits et légumes au meilleur rapport qualité-prix. C'est pas compliqué. Leur objectif, c'est d'offrir des super bons prix sans compromis sur la qualité. Hey, c'est super, Super C. Détails et conditions au superc.ca.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Prenez part à la fête de la relâche chez Floralie Jouvence. À Québec, visitez la plus belle et la plus vaste mini-ferme éducative. Chèvres, moutons, poneys et bien plus. Jusqu'au 8 mars, la